Il est 7h25 sur France Culture. Le reportage de ce matin nous conduit en Ukraine, un avant-goût de l'interview que vous pourrez écouter d'ici une dizaine de minutes en direct de Kiev. Guillaume Erner reçoit le réalisateur Oleg Sentsov. L'Ukraine, donc, avec une des questions les plus difficiles à résoudre pour le nouveau président Volodymyr Zelensky, et qui est au pouvoir depuis 6 mois, à savoir faire accepter par ses concitoyens le dispositif de retrait conjoint des troupes dans le Donbass, les troupes de l'armée régulière et celles des séparatistes pro-russes. Cette opération, la troisième, doit se terminer aujourd'hui et la dernière des conditions émises par la Russie pour participer au sommet qu'on appelle le format Normandie, c'est-à-dire avec l'Ukraine, l'Allemagne et la France. L'objectif, c'est la poursuite du processus de paix dans cette région en guerre depuis 2014 où 13 000 individus combattants et civils ont perdu la vie. C'est un reportage de Claude Brouillot.
Dans l'arrière-cour d'une ruelle au-dessus de la place Maïdan, nous avons rendez-vous avec Yaroslav. Membre du bataillon Azov qui a fourni nombre de combattants dans le conflit du Donbass depuis plus de 5 ans, il s'occupe aujourd'hui de la gestion des stocks. À tout juste 29 ans, Yaroslav est déjà un vétéran. De ses 4 années passées sur le front, il retire quelques certitudes. La guerre sera longue, l'issue est incertaine et le processus actuel de recul de quelques dizaines d'unités en seulement 3 endroits sur une ligne de contact de 400 km ne résoudra rien.
Je pense que ce retrait de troupes ne sera pas la solution du problème. Ça va simplement geler la situation. Rien ne sera réglé, tout restera figé. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a un retrait de troupes. Et avant, ça n'a pas marché. Je voudrais rajouter aussi le fait qu'en procédant de la sorte, on laisse derrière nous beaucoup de positions qu'on a entretenues pendant des années. Elles constituaient en quelque sorte une frontière physique, avec par exemple des tranchées comme à Stanislav-Luganska, où j'ai fait mon service militaire. J'ai participé à la construction de ces positions, à leur consolidation. Souvent, les retraits de troupes se sont effectués seulement de notre côté. On laisse ces positions aux séparatistes, en fait.
Yaroslav est allé plusieurs fois ces dernières semaines manifester avec les nationalistes à Kiev contre ce qu'ils appellent la capitulation face à la Russie. En revanche, il n'a pas suivi ceux qui sont allés carrément à l'est, sur le terrain, là où 2 opérations de retrait ont déjà eu lieu. Cette démarche, Sergueï Tamarin, lui, l'a entreprise, responsable dans la capitale ukrainienne du parti nationaliste Corpus. Il explique pourquoi les anciens combattants comme lui ont le droit de contrôler, à leur façon, l'action de l'armée et, d'une certaine manière, l'initiative de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
Ce que je veux dire tout d'abord, c'est qu'on n'empêche pas le président et l'armée d'accomplir leurs tâches. Ce qu'on essaye de faire, c'est juste d'attirer l'attention de l'opinion sur les décisions qui ne nous semblent pas bonnes. On a le droit de faire ça. Nous sommes des anciens combattants de cette guerre russo-ukrainienne. Moi, personnellement, j'ai combattu pendant 5 années sur le front, et notamment dans l'un des 3 villages concernés par ce processus de retrait. Pour nous, c'est important que tout se passe bien. On organise ce qu'on appelle des raids pour la paix. On va inspecter les villages dans les zones de retrait des troupes pour être certain que tout se passe bien.
Les anciens combattants qui se rendent sur les zones de retrait militaire disent que leur présence rassure les habitants avec lesquels ils sont certains d'avoir créé des liens de confiance pendant le conflit. Protéger les populations et au final pacifier toute la région, c'est le premier objectif de ces retraits de troupes pour Alexander Vigliano, conseiller gouvernemental au ministère des Infrastructures à Kiev.
Notre grand objectif, c'est la sécurité des gens. On ne les abandonne pas, le retrait ne signifie pas qu'on les abandonne. Ils sont toujours suivis, ils sont toujours sous la protection de l'armée, sous la protection des forces spéciales, mais le périmètre de sécurité doit être respecté. Telles sont les conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les diplomates doivent parler quand les militaires respectent le silence. Et c'est normal.
Si le cessez-le-feu se maintient aujourd'hui encore, la dernière condition à la tenue d'un sommet format Normandie, Ukraine, Russie, Allemagne et France sera remplie en théorie. Mais cette réunion, née finalement de ce retrait de troupes très minimaliste, ne donne aucune indication précise sur la stratégie globale de Volodymyr Zelensky pour parvenir in fine à la paix dans le Donbass. On ne sait pas jusqu'où il veut aller par rapport à Poutine, selon Tetiana Ogarkova, journaliste coordinatrice au Media Crisis Group Center de Kiev.
Arrêter les tirs, c'est bien sûr, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe après? C'est pour ça que l'absence de stratégie de la part du président Zelensky, on voit en quelque sorte que leur comportement est tactique. Qu'aujourd'hui, on libère les prisonniers, que demain, on fait le retrait de troupes parce que Poutine le veut, l'exige pour avoir le sommet de Normandie. On fait tout le possible pour commencer à négocier, mais à la fin de compte, on ne voit pas quel est le but, quel est l'objectif des négociations pour l'Ukraine. Où est-ce qu'on est prêt à céder et quelles sont les choses où on ne cédera jamais?
Et si personne ne doute de la volonté de Volodymyr Zelensky à essayer de gagner la paix dans le Donbass, ce qui inquiète en revanche une partie des Ukrainiens, c'est ce flou qui règne sur les moyens qu'ils comptent employer pour y parvenir.
Voilà, on retournera en Ukraine d'ici une dizaine de minutes. Guillaume Erner en direct de Kiev, en compagnie du réalisateur Oleg Sentsov. Il est 7h30.